Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Entente cordiale, bonjour. Aujourd'hui, paraphrasant la romancière Nancy Mitford, nous allons partir à la poursuite de l'amour. Comme avait coutume de le dire Paul Morand, les Anglais ont toujours eu l'habitude de venir en France pour y chercher le soleil, y déguster de grands crus et y profiter de femmes dont il leur semble qu'elles sont à la fois plus désirables et plus accessibles que leurs compagnes. On notera aussi que la reine du crime, alias Agatha Christie, a souvent placé sur la French Riviera plusieurs de ses intrigues, figeant dans l'éternité des créatures languissantes qui retrouvaient ainsi dans la mort les positions qu'elles avaient affectionnées au cours de leur existence. Bref, comme on va le voir, le vocabulaire français lié aux choses du sexe a toujours très bonne presse outre-Manche. Alors commençons d'abord par une tournure plutôt élégante et assez littéraire, l'expression de grandes horizontales. Employée presque toujours exclusivement au pluriel, elle désigne les cocottes et autres demi-mondaines. On citera pour exemple cet extrait d'un article du Times mentionnant l'une des plus célèbres courtisanes du XIXe siècle, Lola Montez. « Her list of conquests over the next decade makes for staggering reading. » As with other grands horizontales, one wonders how on earth she found the time. They included Franz Liszt, Marius Petipa, King Ludwig I of Bavaria, and Prince Heinrich Reuss-Lobenstein, to name just four. Un autre exemple, lui aussi fourni par le Times, dans lequel on explique tout l'intérêt que portait le portraitiste anglais Joshua Reynolds aux célébrités de son temps. Portraits and self-portraits by the great 18th century painter in a show arguing that the old boy was a Star Trek as any groupie. So we see, among other works, Reynolds' views of Dr. Johnson, of the grand horizontal Kitty Fisher and Nellie O'Brien, and of Omai, the savage, whom Reynolds daringly painted in the pose of the Apollo Belvedere. Passons maintenant à une expression qui, elle aussi, connaît un grand succès dans la presse britannique et dont l'actualité ne semble devoir jamais être démentie. Elle paraît même représenter pour les Anglais un archétype des mœurs françaises. Il s'agit de l'expression « ménage à trois ». L'élégance française nous retiendra seule de constater que l'illustration de cette expression bien gauloise par des exemples pourtant typiquement anglais n'a pas paru contradictoire à nos voisins britanniques. Dans un article du Sunday Times daté de 1999, on relève cette phrase, recension d'une pièce de théâtre dans laquelle un coiffeur londonien est partagé entre deux petites amies. Peter's initial contempt for Maud as a straight and boring hairdresser soon gives way to a kinky ménage à trois, in which Sally eagerly dons a dog collar and frilly apron and has herself tattooed with the words I am Sally, the slave of Maud and Peter. L'histoire anglaise regorge de toute façon de ces ménages tantôt scandaleux, tantôt fashionable, depuis ce duc de Devonshire au début du XIXe siècle jusqu'au couple très Bloomsbury formé par Isadora Carrington, l'historien Lytton Strachey et un sémillant et vigoureux soldat australien. Le cinéma anglo-saxon s'est depuis longtemps emparé d'une autre expression hexagonale, celle de « femme fatale ». De Rita Hayworth à Lorraine Bacall en passant par Charlotte Rampling, la femme fatale a toujours plu autant aux critiques de cinéma qu'aux spectateurs de la gente masculine. Témoin, cette recension du film « Leave Her to Heaven », mélodrame hollywoodien des années 1940, dans lequel John Tierney tenait le rôle principal. Mourning the loss of her father, Jane Tierney's Freudian femme fatale becomes increasingly unstable, staging a spectacular revenge plot involving miscarriage, manslaughter and suicide. C'est dire. Mais ne laissons pas au bord du chemin un faux ami qui, mal employé, provoquerait une gaffe irréparable. Il s'agit du mot de « madame » qui désigne chez les Anglais comme chez les Américains la tenancière d'un bordel. L'intrigue de la nouvelle de Maupassant, la maison Tellier, se trouvait d'ailleurs ainsi résumée dans un article du Times en date du 15 septembre 2000. « The madame and her ladies goes off on a jaunt to the country to see her niece being confirmed. » Enfin, pour finir, quelques petits curiosa, ainsi qu'on nomme chez les libraires d'anciens les ouvrages au caractère licencieux. D'abord, l'expression volontairement inachevée de « voulez-vous », dont chacun a depuis longtemps compris qu'elle était une invitation à un aller simple pour s'y taire. Les fans du groupe de rock peroxydé suédois ABBA se souviendront sans effort d'une mélodie qui fit la fortune de leurs interprètes, cependant que des générations d'étudiants envoyés en séjour linguistique outre Manche par des parents soucieux de leur réussite scolaire ont largement mis en pratique cette formule éculée. Mentionnons ensuite l'expression de « partie carrée » dont l'actualité outre-Manche ne s'est jamais démentie. Cette expression, qui semble bien de chez nous, figure d'ailleurs dans le très sélect et très orthodoxe Oxford Dictionary of Foreign Words and Phrases, avec la définition suivante « a party of four, especially comprising two men and two women ». Un critique d'art britannique assimilait récemment le déjeuner sur l'herbe de Manet à une partie carrée à cause, je cite, de « a juxtaposition of a female nude with fully dressed men ». Citons encore le terme de « voyeur », mais il est à ce point universel qu'un auteur anglais avait coutume de dire, je cite, « there is a certain voyeur in all of us ». Et finissons proprement, si j'ose dire, avec le mot « bidet », qui désigne ce que nos voisins anglais regardent sans doute comme la preuve la plus éclatante de ce regrettable débordement des sens propre aux Français. Le courrier des lecteurs d'un quotidien britannique reflétait il y a quelques mois la perplexité d'un couple de touristes anglais ayant réservé une chambre d'hôtel sur la Côte d'Azur et découvrant pour la première fois l'existence du bidet. « My wife informs me that our bathroom refurbishment will include a bidet. My sketchy knowledge of the bidet is that it's used only by prostitutes in Maigret novels. Obviously, I'm wrong. Would you please advise me as to how I should use the item of Frenchy plumbing ?» Fort simplement, le responsable de la rubrique du dit quotidien rassurait comme suit son lecteur un peu effrayé. « A bidet originally meant a pony. Then it came to mean a shallow oval basin with taps that can be bestrident like a pony. It is for washing the perineum, the crotch, the bottom, the lower part of the body. English schoolboys find this notion a bit of a jiggle. The French are a hygienic and civilized race. Try to get a shower in your bathroom refurbishment as well as the useful bidet. American and French people find the English a bit of wallowing in our own dirty water in a bath grotty. And they have a point. » C'est sur cette preuve éclatante de la suprématie des principes d'hygiène à la française que nous nous séparons. Pardon pour le choix de cette thématique que les Anglais qualifieraient sans doute de « comme ci, comme ça » ou de « a bit so-so ».